Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Que se passe-t-il à Lourdes quand il n'y a pas de miracle ni d'apparition ? La ville est-elle tout entière absorbée par l'ardeur de la foi et le poids de l'attente ? Écrasée l'été par la chaleur et les pèlerins du monde entier ? Et le reste de l'année ? Y a-t-il du chômage à Lourdes ? Que sait-on de la politique de la ville, de la gestion du parc hôtelier, de la vie des Lourdaises et des Lourdais ? Les urgences de l'hôpital sont-elles en grève, débordées ? En feuilletant la presse, j'y ai trouvé quelques histoires pas catholiques. Comme cette artiste luxembourgeoise de 34 ans qui a posé nue devant la grotte sanctuaire en se réclamant de la liberté d'expression. Inutile de dire que les autorités de la ville mariale l'ont interpellée FISA et placée en garde à vue pour exhibition sexuelle. J'ai découvert sans grande surprise qu'à Lourdes comme ailleurs, hélas, il y a des violences conjugales. En avril dernier, un ancien militaire, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement de son ex-compagne, a continué de la harceler jusqu'à la prendre en otage avec ses parents pendant une longue journée. Il a fallu l'intervention de 3 équipes spéciales du RAID pour dénouer la situation après que le forcené a quand même tiré sur son ex avec un fusil à pompe. La ville n'est pas épargnée non plus par la délinquance. Ainsi, pendant le week-end de Pâques en 2017, avenue Bernadette Soubirou, un bureau de change a été violemment braqué par 2 individus. Le propriétaire ne s'en est pas laissé compter et a vaillamment résisté, précise Lourdes Info. D'autres histoires plus joyeuses m'ont également montré que Lourdes est presque une cité comme une autre, comme cette comédie musicale à succès qui s'y joue depuis l'été. Bon, ça n'est pas Mamma Mia non plus, mais Bernadette de Lourdes, mais il paraît que c'est épatant et aussi très moderne. Donc tout de suite dans Les Pieds sur Terre, je vous propose d'écouter 3 autres histoires qui se passent à Lourdes et en disent un peu sur cette ville assez fameuse et elles sont racontées par Alain Lefkovitch.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Bonjour à tous les pèlerins sur la route de Lourdes. Bonjour à tous ceux qui viennent du diocèse du Berry. Bienvenue à tous, bon appétit à chacun. Et puis, sur cette route de Lourdes, on va faire un petit bénédicité en priant la Vierge Marie avec le chant couronné d'étoiles pour commencer.
Nous te saluons, toi, notre...
Voilà, donc Stéphane Caillot, donc j'ai 52 ans. Je travaille dans l'office public de l'habitat du Cher, logement social. J'ai 3 sœurs, 1 frère. Mon frère est avec quelqu'un, mes sœurs étaient toutes avec quelqu'un à cette époque-là. Et donc moi j'étais un célibataire. Je me suis dit, je ne suis pas fait pour être marié. Après, voilà, j'ai vu que la foi était de plus en plus importante pour moi. C'est pour ça que j'avais pensé à la prêtrise. Et donc, la décision, l'envie d'être prêtre, en fait, m'est venue un jour. Le déclic a été, un jour, je suis allé à la fête de l'Assomption, le 15 août, à la cathédrale de Bourges. J'étais pas allé à la messe depuis très longtemps. Et je suis rentré donc, à cette messe et je ne voulais pas communion, parce que ça faisait au moins 10 ans que je n'avais pas pratiqué. Et je me rappelle toujours, il y avait un groupe de personnes handicapées mentales, dont des personnes en fauteuil roulant. L'éducatrice est venue me voir pour que je pousse une personne à la communion. Donc évidemment, j'ai accepté. Et donc, cette personne, j'ai poussé à la communion. Et en fait, la sœur m'a tendu l'hostie. Alors j'ai pris l'hostie parce que j'avais les mains occupées par le fauteuil. Et ce jour-là était le déclic. Ce jour-là, j'ai ressenti une grande, grande joie. Et je pense que si j'étais mort ce jour-là et si on m'avait demandé en arrivant là-haut et tu t'es eu fier de quoi, j'aurais dit c'est de ça que je suis fier, d'avoir poussé une personne en fauteuil à la communion. Et ce jour-là, j'ai cheminé, j'ai préparé ma confirmation. Donc j'ai été confirmé en tant qu'adulte à l'âge de 30 ans. Et donc après, je me suis engagé en aumônerie. Je suis allé à Lourdes après, 2 ans après. On fait des repas de malades avant le pèlerinage, à printemps, Et ma première rencontre s'est faite là. On m'avait demandé de raccompagner Valérie chez elle, dans son appartement. Et donc la première rencontre a été là, donc j'ai déjeuné avec elle et après je l'ai raccompagnée chez elle. Après, on a sympathisé, on a vu que le courant passait bien. Valérie, c'est quelqu'un de pratiquant et qui communie à chaque fois qu'elle le peut. Et donc moi, à cette époque-là, j'étais engagé dans une équipe de monnerie et je portais la communion à l'hôpital Jacques-Cœur qui est à Bourges, un dimanche par mois. Et bah, la retrouvaille s'est faite là parce que je retrouvais Valérie en lui portant la communion un dimanche matin. C'est là que je me suis dit que finalement, je n'allais certainement pas rester célibataire. Je suis tombé amoureux, évidemment, quand j'étais ado, mais à ce point-là, c'était la seule fois. Enfin, vous ne l'avez pas vu Valérie, mais Valérie, c'est quelqu'un de très belle, qui est belle, qui est rayonnante. Et donc, ce qui m'a remarqué en premier chez Valérie, c'est ses yeux et son regard. Son regard, sa beauté, sa force de caractère, et puis elle est très, très, très volontaire et elle ne baisse pas les bras. Oui. Et une deuxième chose importante, c'est qu'elle est très handicapée, elle vivait encore seule. Ça m'a beaucoup marqué. Valérie tenait encore debout, elle pouvait encore s'habiller seule, elle pouvait encore faire les gestes du quotidien seule. Elle a une auxiliaire de vie, mais à environ 2 heures par jour. Et donc elle a une maladie génétique orpheline depuis l'âge de l'adolescence. Donc après, les gens ont un trouble d'équilibre et se retrouvent en fauteuil autour de 25 ans. Donc quand j'ai rencontré Valérie, en fait, cette foi a continué à évoluer, mais différemment. Parce qu'il y avait l'amour de Dieu qui me posait question, et il y avait l'amour de Valérie qui me pose aussi question. Donc bah, le choix s'est porté plus vers Valérie. Donc après, elle a cheminé, puis après, on a pu voir qu'on était fait l'un pour l'autre environ 4-5 mois après. Par la suite, ce qui m'a marqué le plus, c'est que j'ai présenté Valérie à mes parents. Et je me rappelle de la première rencontre avec mon père, parce que mon père n'avait jamais été confronté au handicap réellement. Et ma mère me disait tout que quand je repartais de la maison, mon père était très malheureux par rapport à la maladie qu'elle avait. En fait, il voyait quelqu'un qui avait une trentaine d'années, qui a une maladie très handicapante, qui peut faire souffrir aussi quelquefois. Et ça, mon père, ça l'a beaucoup rendu malheureux. C'est lui qui poussait le fauteuil de Valérie et c'est lui qui l'aidait à monter les marches chez mes parents. Et donc mes parents ont toujours accepté Valérie, mes frères et sœurs ont toujours été là, ils n'ont fait aucune différence avec mes autres belles-sœurs ou beaux-frères. Alors par contre son père, il disait, il arrive un miracle à Lourdes, Valérie a ramené un compagnon. Donc pour lui, c'était le miracle de Lourdes, parce que Valérie n'était plus seule. Ça je pense que c'était réconfortant pour lui et pour nous, parce que ça veut dire qu'il m'acceptait et que j'étais le bienvenu. Après sa famille m'a bien accepté, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Quand j'ai présenté Valérie à mon entourage et à tous mes amis, ça a été assez naturel. Donc après, il y a beaucoup de gens qui s'inquiétaient plus pour moi, pour se dire est-ce qu'il va être capable de surmonter le handicap. Par contre, les enfants, le regard des enfants, c'est un regard curieux. Un enfant, il va vous demander ce qu'a votre femme, et puis terminé. Après, un enfant, t'es en fauteuil, t'es non-voyant, terminé. Et puis les enfants sont curieux naturellement. Donc les enfants, souvent, ils me regardent quand je mets Valérie dans la voiture. Ils se posent toujours la question comment on fait pour passer d'un fauteuil à un siège de voiture. Après, si j'ai entendu parler de ces phrases par une voisine à Valérie, mais bon, c'était plus de la jolie qu'autre chose. C'est-à-dire, il va pas rester avec, elle tient pas debout. C'était le truc tout bête. Hein, voilà. Mes collègues m'ont jamais tenu ces propos-là. J'ai toujours été, j'étais toujours très bien accueilli. On m'a jamais trouvé bizarre. Non, bah, toujours. Les gens me connaissent, donc ils savent que je suis pas un hilu-berlu. Ils savent que j'ai les pieds sur terre, donc non, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Quand j'ai décidé de me marier avec Valérie, en fait, j'ai pas eu trop de réflexion. On s'est marié, c'était quand même assez vite qu'on s'est rencontrés en 2002 et on s'est marié en 2004. Bon, après, on avait quand même plus 20 ans, on avait une trentaine passée, donc je pense qu'on pouvait quand même savoir ce qu'on voulait. Donc on s'est marié 2 ans après. Donc. Par contre, ça a été un grand moment parce que une mariée en fauteuil, c'est très rare. On nous a fait rentrer dans une salle avec des mariés. Et j'avais bien précisé avant au officier d'état civil que j'ai dit, vous dites pas les mariés, levez-vous, parce que ma femme ne se me lèvera pas. Et donc la grosse erreur de l'officier d'état civil, c'est les mariés, levez-vous. Donc ça par contre, ça a été quand même assez dur, parce que je veux dire, voilà, c'est une faute qu'il ne devait pas faire. Ma première expérience sexuelle avec Valérie a été avec Valérie, ouais. A été avec personne d'autre. C'est la première femme que je rencontre, donc je crois Valérie, elle avait plus d'expérience que moi dans ce domaine. Elle a rencontré quelqu'un avant, elle a vécu avec quelqu'un qui l'a laissé, je pense, par rapport à la maladie. Donc par contre, l'intimité, la tendresse, j'ose dire que c'est une intimité comme tout couple qui peut exister. Hein. Voilà. Donc effectivement, la question des enfants s'est posée un peu avant le mariage. Et donc Valérie, il y avait le choix d'avoir un enfant biologique. Ça, on en a parlé tous les deux, c'était trop compliqué parce que Valérie est en fauteuil. Et le problème, c'est porter l'enfant, le mettre au monde, donc ça aurait pu mettre sa vie en jeu. Donc ça, là-dessus, on a fait le choix de faire une procédure d'adoption. Ça a été très compliqué, ça a été refusé. Pour la simple et bonne raison, c'est que Valérie a une maladie évolutive, que la MDPH, comme je parle, la Maison départementale du handicapé, enfin c'est le conseil général qui a fait le dossier. Bon, vous savez qu'il faut un agrément. Cet agrément, elle ne l'a pas eu par rapport au handicap. La MDPH, là-dessus, ne voulait pas valider parce que je pense que la peur qui a été la leur, c'est que je me retrouve seul pour élever l'enfant et qui est un souci après. Donc je pense que ça. Donc effectivement, on n'a pas pu adopter à cause de ça. Donc voilà. Donc Valérie, par contre, bon, moi j'ai des filleules et Valérie, elle a une amie proche qui a eu un bébé il y a 7 ans et elle l'a mis marraine. Donc ça, c'est une grande joie parce que bah, Valérie a un petit filleul. Donc voilà. C'est pas son fils, hein, mais bon, c'est un petit filleul. Ça peut combler un peu la maternité. Donc après, voilà, on l'a vécu plus ou moins bien, mais bon, il faut accepter les choses. Hein. Depuis 16 ans, Valérie reste la même. Par contre, il est évident qu'il y a plus d'énervement. Va y avoir aussi, à des fois, elle va craquer parce qu'elle en a vraiment marre. Elle souffre de plus en plus. C'est comme c'est une maladie dans laquelle les cellules se détruisent. Il faut bien prendre conscience que ça prend l'ensemble du corps. Donc ça prend la parole, les gestes, la respiration et tout. Mais effectivement, Valérie, que j'ai connue au début, c'était quelqu'un de beaucoup plus autonome. Et donc aujourd'hui, Valérie, elle peut manger très difficilement. Elle s'exprime de plus en plus difficilement. Après, ce qu'elle peut plus faire, c'est tous les gestes de la vie quotidienne. Je veux dire, se lever toute seule, c'est plus possible. Aller aux toilettes toute seule, ça fait des années que c'est plus possible. Se laver toute seule, se maquiller. Il y a quelques temps, elle arrive encore à se maquiller, mais là, c'est moi qui la maquille, ou l'auxiliaire de vie, la coiffée.
Notre Père qui es aux cieux, sois sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Valérie Nage, pour nous, c'est important. C'est un moment de ressourcement spirituel. C'est la rencontre de plein d'hospitaliers qu'on connaît, qu'on voit qu'une fois par an. Après, voilà, le miracle, bien souvent, il arrive à Lourdes. Donc, si on ne vient pas à Lourdes, on n'aura pas de miracle. Il y a cette démarche encore aussi qui est là, dans le fond, dans le creux de notre tête. Je vais à Lourdes, je prie pour que Valérie guérisse. Donc, voilà, des miracles, il y en a eu. Après, moi, je suis quelqu'un de très lucide et je suis très prudent. Donc, pour Valérie, c'est important. Je pense que quand elle va se baigner à la piscine, c'est pour être exaucée, avoir un miracle. Donc, ça, Valérie, je pense qu'elle y va pour ça. Évidemment, s'il y avait un miracle, j'accueillerais les bras ouverts. Ça serait le plus beau pour nous. Je prie et je demande. Après, voilà. Moi, dans Notre Père, il n'y a que ta volonté soit faite. Donc, après, c'est le Seigneur qui décidera. Par contre, la notion de miracle, la lourde, elle est autre. Le miracle, Valérie, c'est le miracle du cœur, c'est le miracle de la fraternité, le miracle de la rencontrer. Si j'étais pas venu à Lourdes, j'aurais pas rencontré Valérie.
Je m'appelle Paul Cablot, j'habite à Lourdes, de suite après les apparitions, 1848. Toutes les maisons de Lourdes qui avaient 10, 12 chambres, eh bien, elles étaient pensions de famille. C'est-à-dire qu'on accueillait naturellement les pèlerins qui venaient à Lourdes, chez l'habitant. Ça commençait avec mes arrière-grands-parents et c'était comme ça. C'était mes arrière-grands-parents qui recevaient. Après, ça a été ma grand-mère qui les a reçus. Ma grand-mère, elle, l'a transformé en 1960 en hôtel une étoile. Et on est passé à ce moment-là à 40 chambres. Après, mon père, dans les années 80 et 85, il a refait des transformations. On est passé à 46 chambres. Et on est monté en deux étoiles. Et on a travaillé tous ensemble pendant une quinzaine d'années. Nous, on a continué d'exploiter jusque ces dernières années. Dans les années 85-86, c'était l'affluence et l'abondance de pèlerins sur Lourdes. On avait un car qui arrivait le lundi, il repartait le jeudi ou le vendredi. On en avait des fois deux qui arrivaient le lendemain. Et donc, à cette époque-là, ils ont fait des établissements où on pouvait avoir le maximum de chambres. Mais les normes à cette époque-là, au niveau des chambres, c'était plus ce qu'il y a aujourd'hui au niveau des mètres carrés. Le cabine de toilette, c'était plutôt des cabines de douche que des cabines de toilette. Et dans les années 2010, on sentait bien que la clientèle, elle voulait plus une cabine de douche, elle voulait une chambre où il y avait un peu plus d'espace. Quand les Chinois, ils arrivent, les Japonais, les Américains, et des Coréens et tout ce qui s'ensuit, mais ces gens-là, ils vont minimum dans du 3 étoiles, voire 4, hein, et climatisé. Ils vont pas venir dans une pension de famille à Lourdes. Il faut pas rêver. Je pense qu'il doit y avoir entre 1000 et 1500 possibilités d'accueil qui proposent, eux, un tarif défiant toute concurrence, quoi. Et on tape sur Internet accueil, hébergement, sanctuaire de Lourdes. On arrive à avoir des prix en chambre et petit déjeuner à 15 euros, alors que les hôteliers, eux, ils ont des salariés, ils ont des charges. Ceux que n'ont pas les sanctuaires. Il faut suivre. Et celui qui ne peut pas suivre, eh bien, il ferme. C'est pas compliqué. Hein. Voilà, il fallait faire une rénovation complète. Voilà. On n'était plus au goût du jour, quoi. Les clients, ils me le disaient. Ils me disaient, mais non, mais ils disaient, attends. Il faudrait que tu repeignes un peu ou que tu retapisses, quoi. Mais j'étais pas chez moi. Parce qu'il y avait le père qui était là et qui, lui, il voulait pas le faire. Donc, et il nous a dit tout simplement, tant que je serai là, ça restera comme ça. Et donc, moi, je lui dis, ouais, d'accord. Mais nous, on va se casser la gueule. C'était dans la continuité de la famille, du travail traditionnel. On restera comme ça et on fermera. Donc on a tenu le coup jusqu'en 2015. Et puis après, on a jeté l'éponge. Dépôt de bilan. Au début, on se dit... Ça faisait 4 générations et c'est moi qui fous tout en l'air. Mais on pleure d'abord.
On ne peut pas vouloir un père.
C'était sa conviction. On l'a respectée. Et puis voilà quoi. Et, bon, et on respecte encore. Bon, j'ai accusé le coup. Ça m'a fait mal. Par rapport à ma grand-mère, surtout. Qui, elle, a tout construit. C'était une... Avant, on disait, les patronnes à Lourdes, c'était les dames. C'était elles qui tenaient les comptes. Après, il a fallu rebondir pour trouver du travail. Et puis... Alors, j'avais commencé à faire des CV, tout ça, alors que je n'en avais jamais fait. J'arrive à 55 ans et il fallait que je fasse des CV. Et heureusement, à Lourdes, on est solidaires. Il y a des collègues hôteliers mais qui avaient des gros hôtels qui m'ont appelé. Qu'est-ce que tu fais ? Je dis, mais j'ai rien. Paul, si tu veux travailler, je te prends. Et ça fait énormément du bien. Ça, c'est énorme. Au début, de plus à être à l'hôtel et de devoir aller chez les autres, eh bien, c'est sûr que on y va un peu avec contre-cœur et on avance. Aujourd'hui, je suis veilleur de nuit dans un hôtel au boulevard de la Grotte. Et bien, écoutez, moi, ça me convient très bien. Je commence le soir, je finis le matin. Et j'ai beaucoup moins de soucis, et beaucoup moins de tracas. Et j'ai pas de regrets, rien. Moi, j'ai des clients que j'avais chez moi qui descendent d'ici, avec qui j'ai pas complètement encore coupé les ponts. Hier soir, il y en a qui sont venus me voir ici. Voilà, quoi. Donc, bon, chez nous, bon, les clients, c'était pratiquement des amis, quoi. L'autre jour, il y a un père qui est passé là-devant. Et il a fait demi-tour, il est rentré pour me dire bonjour. Et il m'a dit, mais Paul, c'est toi qui es là? Et je dis, oh, mon père, comment allez-vous? Voilà, quoi. Il y avait quand même un lien avec la clientèle qu'il y avait dans l'établissement qui n'est pas perdu. Voilà. Là, on essaye de vendre l'établissement. Ça se négocie, là, en ce moment. Et puis, voilà, quoi. J'espère que ça redeviendra un établissement notable. C'est ce que je souhaite de tout cœur pour la mémoire de la grand-mère. Puis j'espère que pour elle, eh bien, ça redeviendra un hôtel-restaurant, surtout pour elle.
Je suis Guillaume Batchouel, je suis journaliste dans le groupe La Dépêche du Midi et donc j'ai officié très souvent à Lourdes. Alors à Lourdes, il m'est arrivé un épisode assez incroyable, c'est que j'ai quitté mon bureau et 2 heures après, j'étais chez moi et j'ai reçu 3 coups de fil. Et d'un coup, il me dit « Vite, vite, faut que tu viennes, le bureau est en flamme ». Et deuxième truc, on reçoit les appels des pompiers parce que comme je suis localier, que je fais la tournée des faits divers, on me prévient s'il y a un incendie ou un accident important. Et bien les pompiers m'ont appelé pour me dire, il se passe un incendie en plein centre-ville, ben, je crois que c'est chez toi, c'est ton agence qui est en train de brûler. Donc je suis retourné sur place, c'était déjà éteint, et tout a cramé, tout a brûlé, je suis arrivé, c'était spectaculaire, avec une signature manuscrite, Delta, et tout de suite on m'a dit, ne touchez à rien, la police est arrivée en disant, écoutez, il y a des similitudes avec l'attaque dont a été victime le foyer d'accueil des migrants, et également votre agence à Tarbes il y a quelques jours, donc on ne touche à rien, et c'était un acte terroriste, quoi. La boutique a été complètement ravagée, la vitrine a explosé, on s'est rendu compte qu'ils avaient passé par la boîte aux lettres de la porte qui donne sur la rue un produit inflammable qui peu à peu s'est propagé et a commencé à faire brûler la moquette, les murs, et c'est parti un truc de fou, puisqu'au-dessus, il y a un immeuble, on est obligé d'évacuer les gens, avec une vieille femme qui est hospitalisée pendant plus de 5 jours. C'était revendiqué par un groupe qui s'appelle Delta, D-E-L-T-A, qui est un des noms de commandos des groupuscules de l'OAS ou la guerre d'Algérie. Vous voyez, c'est l'extrême droite française, quoi. Et voilà, donc ça a tout de suite inquiété la police, d'autant que 3 semaines avant, un des bureaux de la Dépêche du Midi, mais à Tarbes cette fois-ci, avait pareil été incendié avec quelqu'un à l'intérieur et ça a failli mal tourner. Et nous pensons, on est même sûr qu'on a eu affaire à des gens qui étaient d'extrême droite, qui en avaient appris les étrangers. C'est vrai que Lourdes est une ville assez accueillante, quoi. Mais il y a surtout un centre d'accueil départemental de demandeurs d'asile, comme il y en a à Tarbes aussi. Et donc, c'était les mêmes cibles. Ça et la presse. Pourquoi la presse? Alors, les gens m'ont dit, mais peut-être que vous avez écrit des choses bizarres ou tenu des propos qui n'étaient pas bien sur des gens. Il y a des raisons. On me disait toujours, il y a peut-être une raison. Je me suis jamais posé la question de savoir si j'avais écrit quelque chose de mal. Alors, Allo Calier, c'est un journaliste qui rend compte de la vie locale, là où vivent les gens. Ça veut dire qu'on peut relater des petits faits, des histoires banales. Voilà, j'étais pas du tout la rédaction de Charlie Hebdo. J'ai pas fait les imams venant à Lourdes, se repentant et se convertissant, hein, et se baignant dans l'eau de la grotte. Non, j'ai pas écrit des choses comme ça. Hein. Voilà, et je me suis rendu compte qu'en vrai, j'étais aussi une cible. Thank you. très rapidement, je vais comprendre que c'est quelque chose que on n'accepte pas vraiment. On ne veut pas parler d'attentat. Pourtant, j'ai la DGSI qui est là. Hein, il y a des policiers qui descendent. Donc, je n'invente pas, quoi. Hein. Et la municipalité me dit, ah bon, mais t'es sûr, on va attendre quand même de voir que ce soit bien confirmé. Alors, j'explique, je dis, bah, écoutez, il y a des éléments quand même, notamment la même attaque pour le foyer des migrants et celle de Tarbes, avec la même signature. Bon, bah, on va voir. Et la ville, finalement, ne s'inquiète pas trop de ça, et surtout qu'on est fin juin, début juillet, et tout le monde, toute la ville parle des moyens de sécurité à mettre en place pour le grand pèlerinage national qui a lieu le 15 août. Parfois, il y a 40 000 personnes, hein, il faut le savoir, et qui n'a aucune mesure de protection mise en place bah, pour ce rassemblement, et en pleine tourmente terroriste. Tout le monde a eu le souffle coupé. Et on a voulu certainement ne pas vouloir croire que bah, on pouvait être touché aussi par un attentat à Lourdes, et Lourdes avec ce symbole catholique important. On s'est refusé à voir ça. Comme à Lourdes, il y a des grands hôtels, et puis surtout beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup de Wi-Fi. Donc je me suis bien travaillé avec mon portable, de droite à gauche. Donc on fait un article, et les réactions à cet attentat ont été assez étonnantes. Par exemple, j'ai un voisin qui m'a dit « Ah, sachez qu'on est vraiment avec vous, hein. C'est pas normal, hein. La liberté de la presse c'est important, l'expression, si vous avez même fait quelque chose qui n'était pas bien, les gens doivent porter plainte ou demander un droit de réponse. » Et à la fin de l'entretien, il me dit « Ça vous gêne pas de garer votre voiture un peu plus loin, des fois que ?» On arrive dans n'importe quel endroit, restaurant de Lourdes, dire « Ah, bah alors Guillaume, on t'a vu ce qui t'est arrivé, on est avec toi. » Et finalement, on devient quelque chose de différent. Et on se rend bien compte qu'on veut pas trop rester à côté de nous. Hein. Mais après, rapidement, je me suis rendu compte que le soir, bah, dès que j'entendais un bruit derrière moi, je sursautais. Le soir, je m'endormais beaucoup moins rapidement. Je commençais à penser, à dire « Mais qui ça peut être? Est-ce qu'ils vont venir ?» J'ai commencé à imaginer des choses. Et même une fois ou deux, arriver à me dire « Bon, s'ils arrivent, je pourrais me retourner là, l'attraper. » Et donc, je suis rentré dans une logique, bah, du gars qui est pris pour cible. Ben, c'est un traumatisme, en vrai. C'est ça. Je m'en étais pas rendu compte de ça. A posteriori, j'ai eu peur. Et finalement, j'en étais assez déstabilisé, quoi. Et j'étais pas été en mesure de continuer Lourdes. Et je pensais après, si vous voulez, prendre une maison où ma famille allait me rejoindre. Et j'ai senti que je pouvais plus rester là-bas. J'ai quitté Lourdes, je suis reparti sur Toulouse. Finalement, cet attentat m'a mis un vrai coup. En vrai, je n'en sors pas indemne. C'est assez étonnant, je ne pensais pas, je suis assez fort, je suis connu même pour être fort. J'ai travaillé dans beaucoup de journaux de faits divers, j'ai travaillé au Nouveau Détective. J'ai fait des grands meurtres, j'ai fait l'affaire Grégory, j'ai fait Francis Holmes, le tueur de vieilles dames dans Paris. J'ai travaillé pour Paris Match. Et bien finalement, cet attentat m'a foutu une claque. Many times I've walked the line, I've rolled the dice and questioned my life. Many times I've sacrificed and dealt with the pain.
C'était Ça s'est passé à Lourdes, un reportage d'Alain Lefkovitch réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Paul Cablot, à Delphine de Malvoux, à Pierre-Louis Delcher, à Stéphane et Valérie Caillot, à Guillaume Hatchwell et à Daniel Acoca. C'est Mélisa Foust, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Lorenzo Cucchiaro, notre stagiaire.